grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, on s'intéresse à cette pollution atmosphérique qui nous tue à petit feu, lentement mais sûrement. Selon une étude scientifique publiée en mars dernier par une revue européenne de cardiologie, la pollution provoque chaque année près de 800 000 décès prématurés partout en Europe, plus de 67 000 en France, une espérance de vie réduite de 2 ans à cause de la très mauvaise qualité de l'air que nous respirons. Nous verrons quelles sont les pathologies directement liées à la pollution, quelle est la composition réelle de l'air que nous respirons du matin au soir? Cette qualité s'améliore-t-elle vraiment, comme l'affirment les pouvoirs publics, en comblé décalage avec la recherche scientifique la plus fiable? Nous verrons quel est le rôle des lobbies industriels et agricoles dans le scandale de la qualité de l'air en France. Quelles sont les véritables solutions pour diminuer les énergies fossiles? Comment les citoyens peuvent-ils agir et tordre le bras des autorités pour agir au plus vite? Pour nous éclairer ce matin, le journaliste d'investigation Jean-Christophe Brizard et le chercheur Thomas Coudon. Dites-nous quels sont les effets de la pollution atmosphérique sur votre santé et sur celle de vos enfants ou petits-enfants. 01 45 24 7000, sans oublier l'appui France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Notre professeur de philosophie maison, que vous inspire notre thème du jour?
Eh bien, une grande envie de changer d'air et de partir au fond des bois dans une cabane à la suite de Henri David Thoreau, philosophe américain du début du 19e siècle.
A tout à l'heure Thibaut de Saint-Maurice. Maurice, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bienvenue à nos deux invités. Bonjour Jean-Christophe Brizard.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'investigation et vous publiez chez First Edition Irrespirable, le scandale de la qualité de l'air en France. Bonjour Thomas Coudon.
Bonjour.
Vous êtes chercheur post-doctorant au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon. Comment est né ce livre, Jean-Christophe Brizard? Ce livre qui donne envie de se réfugier, je ne sais où, en tout cas loin de cette pollution atmosphérique qui nous tue à petit feu.
Elle est partie d'un constat personnel. J'ai été parisien pendant de longues années et je suis le papa d'une petite fille qui maintenant a un peu grandi, qui a 13 ans. Et à partir de 7-8 ans, elle s'est mise à tousser de plus en plus régulièrement la nuit, à avoir des quintes de toux qui n'en finissaient pas. Et je suis allé consulter un médecin qui m'a dit qu'elle commençait à faire un asthme chronique qui était certainement lié à la pollution de l'air. Donc j'ai décidé avec mon épouse de quitter Paris et on s'est installé dans le sud-ouest, le plus loin possible de la pollution, en sélectionnant de manière vraiment très précise. Je ne voulais pas être près de vignes parce que je sais que les vignes sont aussi très touchées par une autre pollution, les pesticides, près de champs, dans une ville de taille moyenne. Donc on est près d'une petite forêt et à côté d'une ville. Et très honnêtement, on y est depuis 3 ans. Au bout d'un an, il ne toussait plus.
Bonjour Franck-Olivier Thoreau.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de l'association Respire. Vous avez une histoire similaire avec celle de notre invité. Racontez-nous d'abord quel est l'objet de cette association Respire.
Alors, Respire, c'est une association de lutte contre la pollution atmosphérique. C'est une association nationale. Et en fait, on accompagne toutes les victimes de la pollution de l'air. Et aussi, un de nos objectifs, c'est justement une action de plaidoyer pour forcer un peu, pour tordre le bras au pouvoir public et pour les forcer à agir.
Alors, vous êtes directement concerné par la pollution de l'air. Comme votre fille, âgée de 2 ans, vous êtes asthmatique. Vous êtes né à Paris et vous avez fait des bronchites asthmatiques jusqu'à l'âge de 3 ans, jusqu'à ce que vous quittiez Paris.
Oui, c'est exact. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on arrive à faire le lien, en fait, entre l'asthme et la pollution atmosphérique. Et c'est vrai que quand j'ai quitté la région parisienne, enfin quand mes parents ont quitté la région parisienne, l'asthme s'est arrêté. Alors pour reprendre un peu plus tard, mais effectivement, dès que je me suis retrouvé loin en fait des sources de pollution, ma santé pulmonaire s'est largement améliorée.
Mais à l'âge de 3 ans, quand vous déménagez à Compiègne, votre état de santé s'améliore très nettement.
Tout à fait, tout à fait. Mmh. Oui, c'était assez spectaculaire. Ouais.
Et qu'est-ce qui se passait dans vos allers-retours entre Paris et les autres régions du point de vue de votre état de santé?
Alors moi, je évidemment, c'était il y a longtemps, donc je m'en souviens pas, mais on le constate, par exemple, avec notre fille qui fait de l'asthme depuis l'âge de 1 an, et donc on est allé déjà plusieurs fois en urgence pédiatrique. Et effectivement, dès qu'on quitte, alors nous, effectivement, dès qu'on quitte la région parisienne, c'est pour aller se mettre au vert. C'est pas pour aller dans des grandes villes ou dans des grandes mégalopoles. Justement, nous, ce qu'on cherche, c'est des villes qui sont aérées ou loin des champs, bien sûr, parce qu'on sait que les champs sont bien exposés aussi. Et donc, on essaye de trouver des villes un peu en bord de mer où on sait qu'il y a un brassage de l'air qui fait qu'il y a forcément moins de particules en suspension. Et effectivement, dans ces moments-là, pendant ces temps-là, on se rend compte que elle a beaucoup plus de facilité à respirer et on n'a plus ces problématiques d'asthme. Donc c'est vrai que on fait vraiment un lien de cause à effet.
Jean-Christophe Brizard, l'Île-de-France, c'est la région la plus polluée en France?
En termes de région, oui. Après, vous avez des zones ponctuellement qui peuvent être encore plus polluées avec d'autres types de polluants. Il y a la vallée de l'Arve, il y a le bassin de Lac, mais en concentration de population, on est sur l'Île-de-France à 100% de dépassement des seuils. C'est l'ANSES qui le dit, c'est validé. On dépasse les seuils réglementaires.
Alors je le disais en introduction, selon une étude scientifique publiée en mars dernier par une revue européenne de cardiologie, la pollution provoque près de 790 000 décès prématurés partout en Europe chaque année, 67 300 en France. La pollution atmosphérique réduit l'espérance de vie de 2 ans, Thomas Coudon.
Oui, donc cette dernière étude a été publiée donc en mars et elle voit la hausse, les chiffres de décès prématurés. La dernière étude française datait de 2016 et estime environ à 48 000 décès prématurés. Ce qu'il faut retenir, c'est un petit peu l'ordre de grandeur. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Et on commence aujourd'hui à avoir une vraie certitude scientifique sur le nombre de décès et les pathologies attribuées à l'exposition à la pollution de l'air et notamment aux particules fines.
Il y a un consensus scientifique?
Aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de preuves et suffisamment de cas de certitude sur la mesure des polluants pour attribuer certaines pathologies à la pollution de l'air. On reviendra là-dessus un peu plus tard, mais oui, il y a un consensus.
Alors Jean-Christophe Brizard, vous avez enquêté pendant 2 ans sur la qualité de l'air extérieur en France et vous avez affirmé aux Parisiens le 12 mars dernier que l'on ment à la population. Alors quel est l'objet de ce mensonge? Qui ment et pourquoi?
Alors, j'ai voulu comprendre, parce que peut-être que vous êtes déjà allé sur les sites internet de ces agences de la surveillance de la qualité de l'air. Et il y en a une par région en France, Air Paris, FA Paris, Atmo, Grand Est, etc. Et à chaque fois, le discours était qu'on allait vers du mieux. Les cartes de la pollution en temps réel étaient toujours au vert. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, bon, il doit y avoir des capteurs partout pour qu'ils sachent quelle est la qualité de l'air à un temps donné. C'est en temps réel. Ils disent, en temps réel, voilà votre qualité de l'air. Et ben, figurez-vous, je me suis rendu compte au cours de mon enquête que, par exemple, moi, j'habite dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne, il y a un capteur pour tout le département. Et il n'est même pas dans la plus grande ville. J'ai fait avec le quotidien Sud-Ouest, on s'est amusé à aller faire des relevés avec des petits capteurs qu'on avait nous-mêmes. Et on se rendait compte que là où, sur le site internet officiel, on était au vert, sur notre capteur, on était au noir.
Mais est-ce que ces capteurs officiels mesurent les particules fines et ultra fines?
Ça, c'est un autre problème, c'est que la réglementation française suit la réglementation européenne. C'est la directive R de l'Europe qui a été décidée en 2008. Et dans cette directive R, contrairement à l'OMS, l'Europe a décidé de ne pas instaurer de seuil sur les particules fines, qui sont les particules les plus dangereuses. Nous avons des seuils en moyenne annuelle pour l'Europe, alors qu'il faudrait avoir des seuils quotidien.
Qu'est-ce qu'une particule fine, Thomas Coudon, et pourquoi sont-elles plus dangereuses que les grosses particules?
Donc, on peut apparenter les particules fines à des poussières suffisamment fines, en fait, pour ne pas retomber directement après l'émission. Donc, elles vont un peu flotter dans l'air. Donc elles sont peuvent être de tailles très diverses. On commence à parler de particules fines à partir de ce qu'on appelle les PM10, donc des particules qui ont un diamètre de 10 microns, et on peut descendre beaucoup plus bas jusqu'à des PM0,1, où là on parle de particules ultra fines qui peuvent avoir des diamètres de quelques nanomètres, donc de la taille d'un virus, et qui peuvent donc pénétrer très profondément à l'intérieur du corps. Le problème, c'est que plus elles sont fines, plus elles passent facilement les différentes barrières, et donc on peut en retrouver dans les poumons, dans les alvéoles, puis après une petite partie dans le sang. Et donc, on a mis un petit peu de temps à le montrer, parce qu'il a fallu faire des études de cohorte sur des temps longs, mais on a pu observer que ces particules fines, même à des taux bas, en dessous des seuils, pouvaient créer des pathologies comme le cancer, des pathologies cardio-pulmonaires.
Et quels sont les principaux polluants qui composent ces particules fines ?
Elles peuvent être de nature très diverse. Par exemple, dans le métro, ça va plutôt être des particules d'origine métallique. On peut avoir des particules fines qui viennent du Sahara, où là c'est plus du silice. Si c'est des particules fines qui viennent plutôt du trafic automobile, là ça va plus être des particules de carbone, sachant qu'autour vont s'agglomérer d'autres molécules, des HAP notamment. Donc c'est très divers, et c'est assez compliqué justement à mesurer, parce que c'est une espèce de soupe avec beaucoup de particules de taille différente et de la toxicité qui est assez variable.
Si je vous comprends bien, les particules fines s'agglomèrent donc et forment un film polluant qui se dépose sur nos organes et nos cellules. Est-ce qu'on peut faire une analogie avec la vitre de mon bureau qui est encrassée par la pollution, les gaz d'échappement, la pollution industrielle ? Est-ce que mes poumons s'encrassent de la même manière ?
Sur un temps long, oui. On a observé des particules fines dans le cerveau, dans le sang, dans des fœtus. Oui, notre corps n'est pas capable de filtrer la totalité des particules fines qu'on respire. Après, il faut faire attention, c'est pas parce qu'il y a présence de particules que va y avoir tout de suite développement de pathologie ou risque. Mais on a quand même aujourd'hui un effet qui est avéré d'un lien entre mortalité et exposition aux particules fines sans seuil. Ça veut dire que dès qu'on est exposé aux particules fines, même au plus bas taux, on a une augmentation de la mortalité. Et si on augmente par exemple de 10 microgrammes par mètre cube la pollution aux particules fines, on va avoir une augmentation de la mortalité de par exemple 6%. Donc ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Dès qu'il y a présence de particules fines, on augmente les pathologies et le risque de mortalité.
Et puis il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail.
Oui.
Alors, expliquez-nous ce que c'est.
Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'aujourd'hui, on a
encore... essayer de faire simple.
On dirait qu'il n'y a pas encore de consensus, mais il y aurait possibilité que plusieurs polluants se combinent et agissent sur le corps, sur des mécanismes biologiques qui vont finalement se stimuler entre eux et vont accélérer leur impact. Donc j'ai par exemple travaillé sur les dioxines. Les dioxines, un polluant de la famille des dioxines est classé comme cancérogène. Une de ses propriétés, c'est qu'il empêche l'ADN de se réparer. Donc par exemple, si on combine ce polluant-là avec peut-être un polluant, lui, qui attaque directement l'ADN, là, on pourrait imaginer que la combinaison de ces deux polluants soit beaucoup plus toxique. Alors aujourd'hui, c'est un peu la nouvelle manière de faire, c'est-à-dire qu'on va regarder plutôt le mécanisme d'action des polluants au niveau biologique et réfléchir comme ça à comment est-ce qu'ils pourraient se combiner. Mais c'est quelque chose qui est encore balbutiant, on va dire.
Alors selon l'Organisation mondiale de la santé, 9 personnes sur 10 respirent un air pollué. Respirer cet air ne tue pas de façon foudroyante, Jean-Christophe Brizard, ça nous tue à petit feu, lentement mais sûrement.
Malheureusement, oui, mais il faut garder l'espoir parce que, à la limite, on n'a pas le choix. On respire tous de l'air, on ne va pas se mettre sous bonbonne d'oxygène. Donc, ce qui est rassurant, c'est que le corps a cette faculté de se régénérer assez rapidement. Plutôt que de parler des pics de pollution, je pense qu'il faut parler de cette pollution constante,
oui, totalement,
qui impacte vraiment lourdement. Parce que là, pour l'instant, on communique surtout sur attention, pic de pollution, limitons la vitesse. En fait, il faut se dire que quand on habite à Paris ou dans une grande ville en France, on est tous les jours touché par cette pollution, et surtout les enfants.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'au niveau scientifique, on est au courant que l'impact de ces particules fines, de cette pollution, est plus important à long terme. Et donc, il ne faut justement pas considérer plutôt les pics, mais plutôt l'exposition moyenne, qui peut avoir un effet même en dessous des seuils qu'on a actuellement en France.
Franck-Olivier Taureau de l'association Respire, vous êtes d'accord avec ça ?
Ah, je suis complètement d'accord avec ça. Effectivement, les pics de pollution ont une vertu pédagogique. On alerte la population en disant attention, pic de pollution, etc. Il faut limiter sa vitesse. Mais le problème, il n'est pas là. C'est la pollution de fond. C'est la pollution qu'on respire tous les jours, qui est bien plus dangereuse en fait que ces pics de pollution. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit.
Vous restez avec nous, Franck-Olivier Taureau. J'aimerais bien avoir votre éclairage du point de vue de votre association Respire. N'hésitez pas ce matin à nous appeler. Si vous avez constaté des effets de la pollution atmosphérique sur votre santé, appelez-nous au 01 45 24 7000, ainsi que sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bove, et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez. Plutôt crever, non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui, monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi plutôt crever que de pas finir ma banane.
Philippe Catherine, la banane.
Grand bien vous fasse.
Aujourd'hui à Paris, gros pic de pollution.
Oh, mais ils nous emmerdent avec ça. Je vais pas déménager en Corrèze à chaque fois qu'il y a un pic de pollution. Enfin, c'est une capitale, c'est une capitale. Voilà, c'est pollué. Bon, ben voilà.
Sur France Inter.
10h24 et on s'intéresse ce matin à la pollution atmosphérique qui nous tue à petit feu. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Thomas Coudon, je rappelle que vous êtes chercheur spécialisé dans la relation entre la pollution atmosphérique et le cancer. C'est une question complexe tout de même, cette pollution atmosphérique.
Oui, oui, c'est assez complexe.
Qu'est-ce qui fait la complexité de cette question ?
Plusieurs choses. Déjà, il y a beaucoup de sources émettrices, donc d'abord des sources naturelles, des sources anthropiques, donc d'origine humaine. Bon, évidemment, les sources d'origine humaine sont largement dominantes. Ensuite, il y a une diversité de types d'émissions. On va avoir des émissions industrielles qui sont canalisées en forme de cheminée, des émissions liées au trafic routier, des émissions liées au chauffage. Tout ça va faire qu'elles ne vont pas avoir le même comportement dans l'atmosphère. Donc on a une diversité de sources, on a une diversité de particules, certaines vont être plus grosses, vont se déposer plus vite, d'autres sont plus légères, vont flotter très loin, on en retrouve même jusqu'au Groenland. Il y a certaines particules qui vont rester dans le corps pendant très longtemps, donc voilà, j'ai fait ma thèse sur les dioxines. Les dioxines se stockent dans les graisses, c'est un polluant qui est difficilement biodégradable, on peut en retrouver jusqu'à 7 ans après l'ingestion. Donc voilà, c'est une complexité de prendre en compte tous ces faits, ce mélange de polluants, et évidemment ils n'ont pas donc, du coup la même toxicité.
Alors Jean-Christophe Brizard, vous publiez une enquête à la fois édifiante et assez inquiétante, Irrespirable, le scandale de la qualité de l'air en France, et vous avez interrogé de nombreux scientifiques qui vous disent tous la même chose, la pollution atmosphérique nous rend malades. Que vous dit par exemple Isabella Anesi Maezano, directrice de recherche à l'INSERM, quand vous lui parlez de la dangerosité des particules fines, qu'est-ce qu'elle vous dit ?
Bah, c'est une éminente épidémiologiste qui me dit que c'est un fait avéré depuis des années. Il y a un consensus scientifique international pour se dire que il y a un impact sur tout le monde et principalement sur les personnes. Il y a des personnes à risque qui vont être plus impactées, donc les enfants, les femmes enceintes, les personnes malades ou âgées.
Mais sommes exposés à quel type de maladie ? Maladie cardiovasculaire, maladie d'Alzheimer, de Parkinson, les cancers.
Mais ce qui est terrible, c'est que quasiment chaque année, il y a une nouvelle étude qui sort pour vous indiquer qu'il y a de nouvelles pathologies. On parle même d'autisme. Alors après, il va falloir des confirmations pour que tout le monde...
Apprendre avec des pincettes, quand
c'est
même.
C'est ça. Mais chaque année, il y a de nouvelles études scientifiques internationales faites par des gens sérieux pour vous dire, c'est encore plus grave que prévu.
Thomas Coudon, vous confirmez ?
Oui, alors... Par rapport à les choses sur lesquelles on est certaines, on sait qu'il y a une augmentation du risque de cancer du poumon, on sait qu'il y a une augmentation du risque d'AVC, de
accident vasculaire cérébral,
risque cardiovasculaire, problème respiratoire, augmentation de risque d'asthme également. Ensuite, il y a
diabète aussi.
Le diabète, je crois que c'est encore totalement validé. Ensuite, il y a des suspicions, on va dire. Donc, vous avez parlé d'autisme. Il y a une suspicion assez forte sur les faibles points de naissance.
C'est ça, j'allais vous en parler.
Par exemple.
Parce que ça traverse le... En fait, les nanoparticules vont partout dans votre corps. Il faut vous dire qu'il n'y a plus de barrière. Donc, vous êtes une femme enceinte dans une ville très polluée. Vous mettez en danger votre fœtus comme si vous fumiez des cigarettes.
La dernière étude qui a été faite par exemple à Grenoble, qui est un modèle d'évaluation de la pollution de l'air très, très fin, qui permet de connaître vraiment très précisément la pollution au niveau de la rue, a estimé qu'environ un quart des naissances avec un faible poids de naissance étaient dues à la pollution de l'air.
Sur l'impact de la pollution sur les bébés, j'aimerais citer les résultats publiés dans la revue Biological Psychiatry en 2018. Je cite « Les enfants exposés au niveau de particules fines les plus élevées pendant la période fœtale ont le cortex plus fin dans plusieurs régions du cerveau de chaque hémisphère. Ces retards cognitifs observés dans les premières années de l'enfant pourraient avoir des conséquences significatives à long terme. »
Ce qui est dramatique, c'est que c'est presque, ça vous marque à vie. Il semblerait, mais c'est pareil, on le découvre, on a 10-15 ans de recul là-dessus, mais on va se rendre compte, un petit peu comme pour le tabac, de l'énormité des risques qu'on prend à respirer. Sauf que le tabac, c'était un acte volontaire, ou alors c'était un tabagisme passif. On pouvait l'arrêter, mais respirer, on n'a pas le choix, on doit respirer.
Franck-Olivier Taureau de l'association Respire.
Oui, tout à fait d'accord. Et puis, en plus, il faut savoir qu'on respire 15 000 litres d'eau par jour, 15 000 litres d'air par jour, pardon. Donc, du coup, on n'a pas le choix de ne pas respirer. Et il faut absolument qu'on puisse respirer un air sain. Ça, c'est très clair. Et je voulais rajouter à ce qui a été dit, mais ça a déjà plus ou moins été dit, c'est que, effectivement, on entend beaucoup que la qualité de l'air s'améliore. Mais en fait, c'est la qualité des grosses particules qui diminue. Et la quantité des particules fines, au contraire, on sait qu'elle ne diminue pas et a tendance justement à progresser énormément.
Thomas Coudon.
Alors, pour ce qui est des indicateurs classiques, c'est-à-dire des mesures de concentration de polluants, on peut affirmer que tous les indicateurs sont plutôt à la baisse, à l'exception de l'ozone. Aujourd'hui, on a un recul sur les PM2.5 et les PM10 d'environ particules fines, donc de... un diamètre inférieur à 10 microns ou inférieur à 2,5 microns, qui est de 10 ans. C'est-à-dire qu'on a des technologies qui sont stables, donc qu'on connaît, sur lesquelles on peut se fier. Et les chiffres de ces capteurs montrent une baisse qui est largement insuffisante, mais une baisse quand même. Donc c'est pour ça que, de mon point de vue, on peut pas dire qu'il y a une augmentation de la mauvaise qualité de l'air. On est plutôt sur une tendance baissière, mais pas suffisamment rapide.
Alors... Là-dessus, j'ai découvert au cours de mon enquête que j'ai réalisée avec Maître Antoine Béguin, c'est que si on ne vous donne pas les moyens de mesurer les polluants, vous n'avez pas les bonnes données. Il n'y a pas assez de capteurs. En France, on n'a pas assez de capteurs pour mesurer les particules fines, donc les fameuses PM2.5. La plupart des capteurs mesurent les particules 10, et donc à partir de là, on n'a pas forcément la réalité de notre pollution dans l'air en France.
Il y avait le tabac, mais aussi l'alcool, l'amiante bien sûr, et les rayons ultraviolets, tous capables de provoquer sans aucun doute des cancers chez l'être humain. La pollution atmosphérique vient de rejoindre ce groupe, a décidé l'Organisation mondiale de la santé. Incolore, inodore, insidieuse, cette pollution a diverses sources, les transports, l'industrie, le chauffage urbain, des sources à l'origine d'un drôle de cocktail. Dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, monoxyde de carbone, ozone et les fameuses microparticules. Ces microparticules, dont les moteurs diesel sont de grands producteurs, mesurent moins de 2,5 millièmes de millimètre, une taille qui leur permet de pénétrer dans le fond du poumon et d'y libérer des agents toxiques. Des toxiques qui, en passant dans le sang, vont provoquer l'apparition de cancers du poumon et de la vessie.
Extrait du JT de France 2 en 2013, je signale que le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, a classé la pollution de l'air extérieur comme cancérogène pour l'homme. Alors Thomas Coudon, quels sont les risques de cancer quand on s'expose à la pollution atmosphérique et comment les chercheurs font-ils le lien entre pollution et cancer ?
C'est une très bonne question. Donc justement, c'était en 2013 que le CIRC a classifié l'exposition aux particules fines comme un risque pour le risque de cancer du poumon. Donc pour faire le lien, il faut faire des études sur un temps long, parce qu'il y a un temps de latence entre l'exposition et le développement de cancer. Donc il faut faire un travail avec des cohortes, donc c'est des grands groupes de population de sujets pour lesquels on a beaucoup d'informations, taille, poids, prise de médicaments, par exemple pour les sujets femmes, si elles ont eu des enfants, si elles prennent la pilule. Évidemment, par exemple, quand on travaille sur le cancer du poumon, savoir si les personnes étaient fumeurs, ça permet tout ça d'ajuster tous ces facteurs de risque. À la fin, on va comparer différents groupes, un groupe de personnes très peu exposées à un groupe de personnes fortement exposées, et on va voir s'il y a une différence dans l'apparition de la pathologie.
Et alors ?
Et alors, donc, pour classifier un polluant comme cancérogène, il faut trois types d'études. Des études épidémiologiques, il faut des études expérimentales chez l'animal, et qu'on a également une hypothèse biologique pour justifier ce lien. Et donc aujourd'hui, on peut affirmer qu'il y a une augmentation du risque de cancer du poumon dû à la pollution de l'air. Donc pour donner un ordre de grandeur, entre 5 et 10% des nouveaux cas de cancer du poumon sont dus à la pollution de l'air.
C'est ce qu'on a constaté par exemple lors d'études qui ont été faites à Grenoble.
Oui, justement. Donc qui utilise un modèle de dispersion de la pollution qui permet de connaître, d'avoir une carte en fait très fine de des concentrations de polluants, parce que c'est un des problèmes justement, c'est qu'il y a une variation spatiale très forte. À proximité du trafic, on peut avoir des concentrations un peu extrêmes. En s'en éloignant, ça décroît assez vite, et donc on a besoin de ce détail-là spatial. Et donc grâce à ce modèle-là et grâce à la prise en compte de tous ces facteurs d'ajustement, ils ont pu estimer qu'environ 7% des nouveaux cas de cancer du poumon dans la ville de Grenoble étaient dus à la pollution de l'air.
Et Priscilla nous dit sur notre page Facebook que je vis dans la région de Grenoble et j'ai toujours entendu dire que la sinusite chronique était légion ici, j'en suis d'ailleurs sujette. Lorsque je prends de la hauteur, loin de la cuvette de Grenoble, tout s'améliore. Ou lorsque je m'éloigne de Grenoble, de nombreux amis ont dû habiter au-dessus de 1000 mètres à cause de problèmes respiratoires de leurs enfants.
Donc c'est toujours délicat d'interpréter une pathologie
et
de la lier directement.
C'est un cas singulier, évidemment.
Voilà. Il est toujours très difficile de lier une pathologie, en particulier à l'exposition à la pollution de l'air. Il y a beaucoup de polluants, ça peut être multifactoriel. Et après, c'est pas possible de juger voilà, un cas individuel comme ça.
Alors Jean-Christophe Brizard, vous pointez donc dans votre livre les failles dans notre système de surveillance de la pollution atmosphérique. Quels sont d'abord les quatre niveaux de concentration de pollution ? Les principaux niveaux ? Des seuils ?
Alors, il y a, de mémoire, il y a un seuil d'alerte, il y a les valeurs cibles. La valeur cible, c'est ce vers quoi on souhaite tendre, donc un air plus pur. Après, vous avez les seuils d'alerte, des seuils critiques, et puis...
Donc après, il y a le seuil extrême, où c'est le seuil où on
en
peut
fait,
pas rester...
En fait, vous avez... La France est tenue... L'État français est tenu d'offrir à tous ses citoyens un air respirable. L'air respirable se base sur les seuils européens, ce dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, les particules fines, les PM2.5, il n'y a pas de seuil au quotidien. C'est des seuils en moyenne annuelle. En moyenne annuelle, la France, on est à 25 microgrammes par mètre cube.
Il faut savoir qu'aux États-Unis, le seuil est deux fois plus bas. Donc,
c'est ce que j'allais dire, voilà. L'OMS préconise 10. 25, 10, ça c'est déjà une première chose. Et en moyenne quotidienne, l'OMS vous dit, à partir de 25, hors quotidien, il faut tout arrêter. Mmh. Il faut circulation alternée, c'est attention, danger. C'est impactant pour la santé humaine. En France, on ne l'a pas fait. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Et c'est pour ça que vous avez ces... d'un seul coup, on parle de pic de pollution parce qu'on dépasse ces seuils.
Alors, qui surveille ? L'État a délégué la surveillance de notre atmosphère aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Il y a 18 ASCA dans tout le pays. Et la plus connue de ces associations, c'est Air Paris. Air Paris qui donne un peu le la de la pollution en France.
Oui, parce que c'est la région la plus peuplée, c'est la capitale française, donc c'est un petit peu effectivement les plus connus. Mais vous avez une ASCA, une association dans chaque région. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces ASCA sont des associations loi 1901 et ce sont des ingénieurs qui sont très compétents, qui sont sérieux, qui travaillent bien, mais elles manquent de moyens. Encore une fois, l'État a manqué à son devoir de protection. Ils ont décidé de déléguer un service public, mais sans donner d'argent. Donc, les ASCA se retrouvent avec un déficit budgétaire, ne peuvent pas mettre des stations de mesure suffisantes partout en France. Je vous dis, il y a des départements entiers où il n'y a pas une station qui mesure les particules fines. Comment on peut savoir la moyenne? C'est obligatoire. Comment on peut le savoir? Ils font des analyses, des statistiques. C'est un logiciel qui mesure ça.
Est-ce que techniquement, il est possible de mesurer les particules fines au jour le jour? Est-ce que ces associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, ces ASCA, est-ce qu'elles sont...
Elles savent le faire.
Elles savent le faire. Vous avez posé la question à Air Paris, par exemple.
Air Paris le fait, mais... Par manque de moyens, ils n'ont pas assez de capteurs pour le faire, mais elles le font, mais pas suffisamment. Le quadrillage n'est pas suffisant, mais elles le font, on sait faire, c'est simple et ça n'est même pas trop cher.
Thomas Coudon.
Mesurer des particules très fines est compliqué en termes de métrologie, coûte assez cher. C'est pour ça qu'on ne peut pas en mettre partout. Et comme je vous le disais, on a une telle variation spatiale des concentrations qu'il faudrait mettre un peu des capteurs partout dans la ville. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on utilise des modèles de dispersion atmosphérique ou des modèles statistiques pour des modèles numériques pour essayer de décrire la concentration. Et je pense que c'est important que les citoyens et les auditeurs connaissent la ASCOA locale de leur région, parce qu'en allant sur le site internet des ASCOA, en général, on a la carte du jour actualisée grâce à ces modèles numériques qui nous donnent une information assez précise sur les concentrations parce qu'elles sont justement calibrées avec les points de mesure. Donc c'est des modèles fiables.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit sur ces capteurs justement. On parlait de mensonges tout à l'heure et la question c'est est-ce qu'il y a un mensonge sur les résultats? Les résultats sont falsifiés ou est-ce qu'en fait les capteurs sont inadaptés, incomplets et proposent une qualité de l'air qui est partielle?
En fait, il y a deux points. Premier point, il n'y a pas assez de capteurs. Par exemple, j'avais noté, prenons un département, la Haute-Loire. La Haute-Loire, il y a zéro capteur pour mesurer les particules fines. Pourtant, sur leur site internet, ils vous donnent en temps réel, ils vous disent en temps réel, voilà la situation en particules fines. Donc c'est basé uniquement sur
des simulations numériques.
Sur des simulations numériques. Est-ce que ces simulations... Alors l'autre problème, c'est que ces simulations sont basées aussi sur des biais. Prenons le secteur automobile. On a tous entendu parler du Dieselgate, du fait que beaucoup de constructeurs n'ont pas été aussi professionnels et honnêtes qu'on pouvait l'imaginer. Vous avez tous les calculs qui étaient basés en partie sur les données constructeurs. Donc si les données à la base sont fausses, vos statistiques vont l'être aussi. Puisqu'on minerait les rejets toxiques des véhicules.
Franck-Olivier Taureau, de l'association Respire, une réaction?
Oui, effectivement, c'est vrai qu'on constate le même problème. Et c'est vrai que la modélisation, elle est imparfaite, même si, évidemment, c'est utile quand même d'avoir une idée des idées de pollution. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de capteurs. Alors nous, en fait, on a un projet de capteurs citoyens. On fait des balades capteurs avec des citoyens. Et justement, pour faire de la pédagogie autour de la pollution de l'air et leur expliquer à quel point c'est compliqué, parce qu'évidemment, nous, on a des petits capteurs qui valent une centaine d'euros, donc elles font évidemment pas le même boulot que les gros capteurs des ASCOA. Mais en tout cas, ça a le mérite quand même de constater des évolutions entre un point, par exemple, si on va prendre une mesure à côté du périph ou sur un axe très passant, ou si on va faire une mesure dans un parc, on va constater quand même des différences. Donc c'est ça qui est intéressant. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, on a publié la carte de la pollution autour des écoles. Mmh. Et c'était très parlant, puisque effectivement on avait pris on a posé des adresses de toutes les écoles d'Île-de-France, il y a 11 500 points. 12 500 points, pardon, qu'on a posé en fait sur une carte Air Paris, et ça nous a permis de constater des choses assez étonnantes, puisqu'en fait on s'est rendu compte que finalement c'est l'exposition directe à la pollution qui va faire que vous êtes effectivement plus exposé à la pollution. Donc c'est-à-dire qu'il vaut mieux quelque part, enfin selon cette carte qu'on a produite, il vaudrait mieux aller à l'école, être dans une école près du périphérique, mais pas trop près non plus, que d'être dans une école sur un grand axe passant parisien.
Le nom du site, Franck-Olivier Taureau, qu'on aille vérifier, en tout cas pour les franciliens?
Alors, c'est respire-asso.org.
Jean-Christophe Brizard, y a-t-il suffisamment de capteurs de pollution dans le métro parisien?
Alors là on touche un point un peu spécifique. C'est que les réglementations sur l'air extérieur ne concernent pas les réseaux souterrains, les réseaux ferrés souterrains.
Et pourtant, particules fines dans le métro parisien sont particulièrement toxiques parce qu'elles sont notamment riches en métaux, en fer et en carbone.
De frein, l'usure des pneus, et surtout, avec le passage des rames, cet air est sans arrêt ventilé et reste en suspension. C'est un vrai problème. Mais c'est pour le métro parisien, la réglementation, c'est la loi du travail, c'est le code du travail. Et on est officiellement, les seuils sont 100 fois plus élevés en termes de tolérance.
Et il n'y a que 3 capteurs.
Il n'y a que 3 stations de mesure sur tout le réseau de la RATP. Et sur ces 3 stations de mesure, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une station qui mesure les particules fines et c'est station Aubert. Et parce qu'elle est en travaux cette année, elle ne fonctionne pas, elle n'a pas été déplacée. Donc pendant toute l'année, il n'y aura aucune mesure réelle sur les particules fines dans le métro parisien.
Allez, Thibaut de Saint-Maurice, prenons un peu de hauteur au-dessus de l'air pollué pour respirer l'air frais et vivifiant de la philosophie.
Bah oui, parce que tout ce qu'on entend là, ça nous donne envie de changer d'air, hein, de partir, de se mettre à l'écart, d'échapper si on peut à toute cette pollution. Alors non pas seulement pour fuir, mais aussi pour retrouver l'essentiel. Et puis, à défaut de pouvoir partir là, tout de suite, hein, immédiatement, je voulais vous proposer de relire un petit livre du philosophe américain Henry David Thoreau qui s'intitule Walden ou La vie dans les bois et qui a été publié en 1854. Alors, pourquoi relire Walden? Eh bien, tout simplement parce que c'est une lecture qui aère l'esprit et qui fait du bien en nous donnant envie de respirer à nouveau l'air pur d'une nature retrouvée. Alors, on est à la fin de l'année 1844 et Thoreau se retire dans une cabane au fond des bois, au bord du lac Walden. Il va y rester 2 ans, 2 mois et 2 jours. Il quitte la ville, son agitation, sa pollution déjà, alors sonore, sociale, économique, pour retrouver la simplicité d'une vie au rythme des saisons et des éléments.
Et quand ses amis lui demandent pourquoi il part, il répond
« Je n'ai pas meilleure raison à donner que de vouloir entendre le vent murmurer parmi les roseaux ». Voilà, c'est ça le premier effet de ce changement d'air, redevenir capable d'observer la nature, se rendre disponible à ce qui se vit là sous nos yeux, les canards qui plongent dans un lac, les fourmis qui se battent, la neige qui recouvre les arbres ou la surface du lac qui change de couleur. Bref, s'émerveiller de ce qui est, de ce qui existe en dehors de soi, mais aussi redécouvrir au contact de la nature qui l'on est. Cette retraite volontaire, elle constitue pour Thoreau une véritable purification, alors on aurait envie de dire ce matin une dépollution de son esprit et de ses habitudes de vie. Et ça passe donc aussi par une critique de la vie dans les villes, du travail, de la consommation déjà. Et après cette grande aération, il décrit la façon dont cette simplicité volontaire lui permet de retrouver une relation harmonieuse avec la nature et donc aussi avec lui-même. Voilà, s'installer au fond des bois et y vivre pendant 2 ans, c'est très directement faire l'expérience qu'un autre rapport à la nature est possible, qu'il est possible d'habiter la nature sans la détruire et qu'il est possible d'être en bonne compagnie quand on est seul avec soi-même. C'est pas étonnant d'ailleurs que ce texte soit considéré comme un des textes fondateurs de l'éthique environnementale. Alors, on n'a pas tous les moyens ni la possibilité immédiate de partir vivre au fond des bois pendant 2 ans ou de quitter Paris et de s'installer dans le Lot-et-Garonne. Mais c'est pas grave parce que la lecture de Thoreau n'est pas à prendre seulement comme une invitation au voyage ou comme une invitation à se retirer du monde, mais finalement comme une invitation à simplement changer d'air et à renouveler le rapport que l'on a à son environnement pour retrouver la nature des choses. Alors, ça peut être quelques jours de marche dans la montagne, une simple promenade au parc le dimanche, et puis on s'allonge dans l'herbe, ou même tout simplement, pourquoi pas, le banc en bas dans la rue, si elle n'est pas trop polluée malgré tout, sur lequel on va s'asseoir sans rien d'autre à faire que de respirer le monde tel qu'il se donne à voir. Peu importe ce que l'on choisit, l'important c'est que chacun d'entre nous puisse trouver dans sa vie une cabane pour pouvoir changer d'air.
Et je vous recommande la lecture donc de Walden, W-A-L-D-E-N, d'Henri David Thoreau. Et je vous recommande l'édition en poche publiée chez Gallmeister, excellente édition de Walden à lire, pourquoi pas ce week-end. La chronique de Thibaut de Saint-Maurice est à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez, on continue à s'intéresser aux effets de la pollution sur notre santé. Question témoignage au 01 45 24 7000. Interprété In The Grey.
Oh, quel paysage, mes enfants, c'est magnifique.
Eh, ça ramonne les poumons, hein.
Grand bien vous fasse.
Oh, ça va vous faire un bien fou avec les saloperies que vous respirez toute l'année.
Sur France Inter.
10h49 et ce matin on s'intéresse à la pollution atmosphérique qui nous empoisonne. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Thomas Coudon, je rappelle que vous êtes chercheur spécialisé dans le lien entre l'environnement, la pollution et le cancer. Vous vouliez apporter une précision importante.
Oui, alors par rapport aux facteurs de risque de cancer, il est important de rappeler que la pollution de l'air se classe loin derrière le tabac, l'alcool, le manque d'activité physique, le fait d'avoir une alimentation déséquilibrée. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque qui sont largement au-dessus de l'exposition à la pollution de l'air en termes de risque de cancer.
Thibaut de Saint-Maurice, vous avez une question très pratique.
Oui, non,
vous qui courez le marathon Paris.
C'est une question justement, comment on fait pour avoir une activité physique cet air des villes un peu irrespirable. Est-ce qu'il vaut mieux éviter de sortir? Est-ce qu'il faut se déplacer dans un parc parce que déjà on s'éloigne un peu des routes? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, c'est toujours mieux puisque de faire l'activité physique puisque c'est un facteur de risque de cancer qui est plus important que la pollution de l'air? Enfin, on a du mal un peu à s'y retrouver.
Alors, si vous pouvez aller dans un parc, c'est toujours mieux parce que vous aurez moins de pollution si vous éloignez du trafic. En revanche, il faut surtout pas s'empêcher de faire du sport, même en cas d'épisode de pollution. Il est déconseillé d'en faire pour les personnes à risque, femmes enceintes, personnes âgées, personnes ayant des problèmes respiratoires, nouveau-nés. En revanche, il a été prouvé, ça depuis quelques années, que les effets bénéfiques du sport surpassent largement les effets négatifs de la pollution de l'air. Donc le message, c'est de faire du sport, ça réduit le risque de cancer et ça améliore la qualité de vie. Donc,
Jean-Christophe Brijard.
Oui, j'apporterai juste une petite précision, c'est soyons juste logiques, éloignez-vous des sources de pollution, choisissez des périodes où il y a du vent, parce que ça disperse les particules, et surtout, quand il pleut, c'est génial.
C'est génial.
Les particules sont écrasées par la pluie, elles sont au sol, vous pouvez plus facilement courir. Après, bon, vous êtes mouillé, c'est un choix, mais c'est l'idéal.
Alors Jean-Christophe Brijard, vous publiez donc une enquête édifiante, Irrespirable, le scandale de la qualité de l'air en France. Quelles sont les principales sources de pollution aux particules fines en France? Que nous dit le CITEPA, qui fournit les sources? Le CITEPA, c'est le Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la pollution atmosphérique. Qu'est-ce qu'ils nous disent?
Alors, ils nous disent que, principalement, le chauffage urbain est très important. Ensuite, on a le trafic routier, l'industrie et l'agriculture sont à peu près au même niveau. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le CITEPA, n'a pas de capteur. Il recueille des statistiques et il vous donne une information sur les émissions. C'est important de parler d'émissions. Il y a les émissions et les concentrations. Émissions, c'est vous êtes le pot d'échappement quand il émet du gaz. Et concentration, c'est vous êtes dans votre à une terrasse d'un café et vous avez un ensemble de polluants qui sont là, qui viennent de différentes sources. Ça peut même être des sources qui viennent de plus loin par le vent. Donc, différence émission-concentration. Parce que vous pouvez avoir un endroit qui émet beaucoup de polluants, mais avec le vent, qui va polluer la région, le quartier d'ailleurs. Donc, ce CITEPA présente aux professionnels, aux scientifiques et à l'État une carte du niveau des émissions de polluants en France chaque année.
Qui compose le conseil d'administration de ce CITEPA?
Eh bien, ce sont des spécialistes de la pollution parce que ce sont les entreprises les plus polluantes qui ont créé le CITEPA dans les années 60. C'était après un épisode dramatique à Londres d'un pic de pollution qui avait fait des milliers de morts. En France, l'État avait décidé de prendre aussi la mesure de la pollution et les industries polluantes se sont dit, bon, on va créer un syndicat, un organisme pour offrir notre propre vision, nos propres chiffres. Et petit à petit, l'État français a délégué cet inventaire qui est obligatoire, rendu obligatoire par l'Europe. Se sont dit, bah, on délègue, on va donner donc aux entreprises les plus polluantes, donc les entreprises pétrolières, chimiques.
Seules trois associations environnementales composent ce conseil d'administration qui compte 21 membres. On peut citer l'Union des industries chimiques, le Comité des constructeurs français d'automobiles, l'Union française des industries du pétrole. C'est un peu comme si on confiait la mesure du taux d'insuline des diabétiques à des confiseurs. C'est un peu pareil, non?
Alors, on pourrait voir les choses comme ça. Je vais essayer d'être le plus neutre possible. Eux vous répondent que ils sont, puisqu'ils polluent, ils sont obligés de polluer de par leur activité, et ils n'ont pas envie de polluer, donc ils sont les premiers concernés et peut-être techniquement ont les moyens de mesurer cette pollution. Ça, c'est pour la partie, on va dire, positive. La partie négative, on peut aussi se dire, peut-être qu'ils ont intérêt à ne pas avoir trop de réglementations contraignantes sur cette pollution. Est-ce que l'État a bien fait de déléguer ce service public à cet organisme? C'est une autre question.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Franck-Olivier Taureau, délégué de l'association Respire? Vous en pensez quoi de ça?
Oui, effectivement, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et déjà, est-ce que l'État fait ce qu'il faut pour ne pas exposer les Français à la pollution de l'air? C'est une autre vraie question. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire à l'antenne qu'il y aura la première audience publique en France. Donc c'est un recours en indemnisation contre l'État pour carence fautive qui sera plaidé devant le tribunal administratif de Montreuil le 28 mai, avec des plaignants qui demandent justement des dommages à intérêts suite au pic de pollution qui a eu lieu en décembre 2016. Beaucoup de villes ont été asphyxiées par ce pic de pollution long et intense. Et donc du coup, on demande, avec Écologie sans frontières, Respire et Écologie sans frontières, accompagne des particuliers pour demander réparation aux préjudices qu'elles ont subis. Donc effectivement, l'État a tendance à déléguer beaucoup. Et c'est une façon un peu de se laver les mains de ce problème, parce qu'en fait on se rend compte que l'État ne s'intéresse pas à ce problème de santé publique majeur, et c'est un peu nous, notre boulot aussi, c'est de leur remettre face à leurs responsabilités.
Comment s'y prennent, Jean-Christophe Brizard, les lobbies industriels pour flinguer entre guillemets une directive européenne comment agissent les semeurs de doute, comme vous les appelez dans votre livre?
Alors, quand j'ai découvert ça, j'ai fait des bons. Je vais essayer d'être le plus clair possible. En 2007, l'Union européenne décide d'instaurer de nouveaux seuils qui seront valables pour tous les États membres de l'Union européenne, des seuils sur les polluants. Vous avez des députés qui sont choisis pour réfléchir au niveau de ces seuils. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président qui était chargé de cette commission était lui-même un climato-sceptique. Bon, pourquoi pas. Vous avez des lobbies très puissants, industriels, qui interviennent. C'est classique, ils envoient des courriers, notamment un lobby qui est le MEDEF européen, qui s'appelle Business Europe. C'est le plus gros lobby, c'est un lobby très très puissant. Vous avez un monsieur qui est à l'intérieur de Business Europe, qui est chargé de communiquer auprès de ses députés pour dire: les PM2.5, les particules fines, ne suivez pas l'OMS, ne soyez pas trop stricts. Et ce monsieur donc envoie un courrier en disant: rejetez une liste d'amendements. Les amendements les plus restrictifs. Les amendements sont rejetés. Et ce monsieur est aujourd'hui président du CITEPA.
Pour terminer, peut-être un peu d'espoir, comment doit s'organiser le sursaut citoyen, le sursaut des consommateurs, Thomas Coudon, en quelques mots?
Il y a plusieurs types d'actions qui peuvent être effectuées, mais ça revient plutôt à la charge de l'État, c'est-à-dire mettre en place des zones de faible émission dans les centres-villes, en autorisant uniquement les véhicules non polluants ou faiblement polluants, en rénovant plus les bâtiments, voilà, en mettant plus de normes, en aidant à rénover tout ça et à baisser les émissions. Tout ça pourra.
Moi, je crois vraiment à l'action citoyenne en justice, la justice administrative. C'est l'État est obligé de nous protéger, de nous offrir un air pur. Il faut les mettre face à leurs responsabilités et qu'ils donnent plus de moyens aux professionnels pour réellement nous informer et limiter l'impact, notamment du diesel.
D'où l'importance d'associations comme Respire. Merci beaucoup, Franck-Olivier Taureau de Respire au téléphone. Merci, Thomas Coudon, chercheur, et merci, Jean-Christophe Brizard. Il faut lire Irrespirable. durable, le scandale de la qualité de l'air en France, c'est publié chez First Edition. Demain, on s'intéresse au plaisir de prendre le train, en dépit des retards, des tarifs parfois exorbitants, des pannes géantes comme dans les gares Montparnasse-Saint-Lazare ou de l'Est ces dernières années. Plaisir de prendre son temps, de contempler le paysage, plaisir des trajets lointains, des rencontres inattendues. Racontez-nous vos plus beaux voyages en train au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Nagui.
Oh, ce petit moment de silence là est bien flippant. Ça, je me suis dit, ah mais il est l'heure.
J'ai une requête Nagui, si vous souhaitiez un bon anniversaire à ma mère, c'est aujourd'hui.
Tiens. Bon anniversaire, quel est son prénom?
Cathy.
Voilà, bon anniversaire.
Ça lui fera plaisir. Voilà.
Je vous embrasse tendrement Cathy.